Le cajot. À mi-chemin de la cage, au cachot, la langue française a cajot. Simple caissette à claire-voix vouée au transport de ses fruits qui, de la moindre suffocation, font tout à coup une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort. Il ne sert pas de foi. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qui l'enferment. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore et légèrement ahuri d'être, dans une pose maladroite, à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. André Débouché, pour vous, le cajot n'est pas une fiction.
Pas du tout. Il y a un rapport d'écrivain à ce qu'il écrit, qui engage le lecteur dans la matière de ce qu'il lit. Et oui, je dirais que le cajot n'est pas une fiction. Vous dites le cajot, on pourrait citer n'importe quel texte de Ponge. Dans la mesure où le cajot en question n'est pas un objet. Et là, dans ses écrits, la littérature non plus n'est pas un objet. Bon, je dis chose, mais ça implique justement une relation ouverte, où ce qui est à dire, ce qui veut se dire, se cherche en cours d'écriture. Et cette recherche en cours d'écriture est la pesée d'attention, la pesée attentive qui précisément donne la forme de ce qu'on lit, invente la forme de l'écrit. Un écrit en cours, un écrit interminable dont éventuellement un extrait aura été donné. J'imagine que vous parlez du cajot, par exemple. Eh bien, le cajot suppose un long travail, n'est-ce pas, dont là, un état est donné sous forme de cajot, mais ce n'est pas l'état définitif. Il n'y a pas, il me semble, dans la plupart des écrits de Ponge, un projet à l'origine de ce qui vient éventuellement sous vos yeux, de ce qu'on lit, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de forme préconçue, disons, il ne se donne pas pour objet, il n'y a pas d'objet, il ne se donne pas pour objet, pour objectif d'écrire un poème dont la forme préconçue serait à remplir, ce qui est, je pense, toujours le cas de la plupart des poètes écrivains.
Vous parlez tout à l'heure de l'inouï. Chez Ponge, oui. De quoi est fait cet inouï pour vous ?
C'est-à-dire que l'inouï, j'ai employé ce mot comme ça, littéralement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore pleinement entendu en français. Ça répond aussi peut-être à une situation de la littérature, de la poésie. Aujourd'hui, écrire un livre, une page, n'a pas de destination évidente. Aujourd'hui, à qui s'adresse-t-on ? Pourquoi écrit-on ? Pour qui écrit-on ? On n'attend pas de le savoir pour entreprendre d'écrire. Il me semble en particulier, c'est ce qui rend ce qu'il écrit tout à fait absolument authentique. Il me semble que très, très longtemps, ou toujours, ou jusqu'à présent, il allait de soi qu'écrivant, on était assuré d'une audience, d'un certain type de lecture, d'un certain type de lecteur. Tout cela s'organisait dans un filet de référence très précise qui supposait une connivence ou un accord. Mais tout cela me semble brisé depuis assez longtemps, rompu. Alors, je trouve que là, quand je disais inouï, il me semble que la Ponge aura été le premier ou l'un des premiers à tenir absolument compte de cette situation, à la prendre en compte. et à ne pas attendre d'avoir une réponse à la question qu'il se pose pour aller de l'avant, pour écrire, n'est-ce pas? Alors cela, il me semble qu'on ne l'avait pas encore entendu en français.
Qu'est-ce qui pousserait Ponge à écrire? Est-ce que ce n'est pas une espèce de combat de la poésie, d'être contre la poésie?
Bien, écoutez, contre la poésie, je pense que lorsqu'il dit qu'il, s'il a dit qu'il était contre la poésie, je pense que c'est une façon de s'inscrire en faux contre un élément mystificateur, contre une fiction. Ce qui apparaît aujourd'hui, un poème, écrire un poème, enfin, je trouve qu'il y a dans ce mot une forte charge de fiction. Cela l'est devenu. Alors, il est arrivé... mais c'est là, n'est-ce pas, que c'est la forme aujourd'hui de la poésie, je dirais, s'inscrire en faux contre cette charge de fiction de la poésie pour atteindre à une vérité. Il s'agit d'une vérité d'esprit.
Le patrimoine des choses est paru pendant l'occupation. Il avait été...
42.
Il avait été reçu par... naturellement par Gallimard avant l'occupation, mais il s'est sorti pendant l'occupation. Et à ce moment-là, moi j'étais en zone sud, enfin, et pour l'heure, il m'a demandé si je désirais voir les épreuves. J'ai dit non, corrige, et puis... fait le service de presse. Il a fait le service de presse et il a envoyé notamment de ma part au peintre, que moi je connaissais plus ou moins, enfin, mais pas tellement.
Ah, c'est donc Paulhan qui a fait votre service de presse.
Oui, c'est lui qui a fait le service de presse. Et il a envoyé notamment au peintre. Il a envoyé à
Picasso, Braque.
À Braque et à Picasso en particulier. Qui, alors, tout de suite après, Paulhan m'écrivait alors, dans les cartes interzones. Braque me parle souvent de toi, etc. Enfin, Braque, je savais déjà depuis longtemps que Braque aimait ça.
Vous êtes très proche, vous et Braque.
Oui, dans ça j'ai été vraiment...
Par la suite.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a dit plus tard, enfin, c'est un critique anglais très célèbre, d'ailleurs très... qui était un homme tout à fait remarquable, dont le nom m'échappe à l'instant même, qui dans sa revue anglaise a dit que j'étais une sorte de Braque en prose. Voilà. Mais enfin, tout ceci, toute chose égale par ailleurs, parce qu'en fait, Braque était un homme beaucoup plus âgé que moi, et puis certainement, je ne me mets pas, moi, à la hauteur de Braque, certainement pas. Braque était quelqu'un doué d'un génie, enfin, vraiment, il n'est pas question pour moi. Non plus que Picasso, d'ailleurs, que je mets tout à fait à la hauteur de Braque. Enfin, alors qu'on a dit, d'une façon idiote, que... Parce qu'aussi, je trouve que...
Pour Braque, je peux comprendre votre complicité, mais pour Picasso, c'est peut-être moins évident. Qu'est-ce qui vous intéressait chez lui?
Oh, ben, c'est un génie de premier ordre. Enfin, c'est le seul qui était capable, à la fois, connaissant tout, ayant tout vu, tout connu... Parce qu'il a énormément lu, il a vu tous les musées, tous les zoos, toutes les choses vivantes, l'art de tous les pays du monde, n'est-ce pas? Et bien il a digéré cela et il le rend à sa façon, n'est-ce pas? Et ben, il faut quand même un certain, oui, un certain estomac, une certaine qualité. Et vraiment, non, c'est un merveilleux génie. Puis c'était vraiment, au point de vue des répliques, enfin, il était fantastique. Enfin, je me rappelle, enfin, c'est-à-dire qu'il avait un seul défaut, s'il était capable, pour un bon mot, n'est-ce pas, d'avoir l'air de sabrer quelqu'un. Quand il a dit de Braque, c'est ma femme, enfin, par exemple, enfin, pour dire, enfin, alors que Braque était loin, vous savez que c'était au contraire un tombeur de femmes, enfin, il était l'amant notamment de cette fameuse de cette fameuse... Enfin, il a été de grand nombre de femmes, mais notamment de cette, vous savez, atmosphère.
Oui.
Vous savez.
Arletty.
Arletty, oui. Qui est, enfin, beaucoup de peintures de Braque sont des portraits d'Arletty, enfin, sont d'après Arletty. Enfin, oui, mais le fait est que...
J'avoue que...
Et alors, ben, je m'appelle Picasso disant, pour le plaisir d'un bon mot. Par exemple, il trouve un cheveu dans le potage. Il dit, tiens, un dessin de Matisse. Voilà. Parce que, voilà, c'était... Non, il avait cette capacité d'envoyer un mot comme ça. Donc, il était assez terrible de ce point de vue-là.
Mais vous le regardiez travailler, parfois ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il fallait, n'est-ce pas ? Vous savez, la différence était énorme, puisque Braque, j'avais rendez-vous avec lui immédiatement. Il suffisait de téléphoner. J'avais rendez-vous avec lui et j'étais seul avec lui dans son atelier, n'est-ce pas ? Bon, et puis on passait le temps qu'on voulait avec lui. Tandis que Picasso, oui, mais on trouvait 50 personnes avec un peu tant de gens, enfin naturellement des marchands, puis avoir des gens de tous les pays du monde enfin, qui venaient là. Il fallait que Picasso vous prenne à part, vous dise viens avec moi, et puis vous emmène dans un autre atelier pour parler avec lui, pour vous dire, tiens, je vais te montrer ce que j'ai inventé cette nuit. N'est-ce pas, par exemple, un outil pour graver en descendant au lieu de monter, n'est-ce pas, en burin, n'est-ce pas, pour pouvoir graver comme ça, comme on décrit. Enfin, des choses comme ça. Puis alors, il y a des preuves, alors, de l'amitié. Vraiment, quand Braque est mort, Picasso n'a pas voulu recevoir personne pendant 24 heures ou 48 heures, n'est-ce pas, il s'est enfermé. Et puis il a, ça je l'ai appris beaucoup plus récemment, justement à une exposition Braque à Argenteuil, n'est-ce pas ? Braque était né à Argenteuil. J'ai appris là par la secrétaire de Braque qui vit encore, elle. Elle m'a dit, quand on a opéré Braque, quand le docteur a enlevé à Braque, il l'a enlevé l'estomac pratiquement. N'est-ce pas, parce que Braque était menacé quoi, d'une tumeur ou quelque chose comme ça. Il a enlevé l'estomac. Et évidemment, ça a été un coup dur pour Braque. Enfin, c'était difficile. Ensuite, eh bien, Picasso est allé vivre à Varengeville, dans la propriété de Braque, pendant 8 ou 15 jours. Vivre avec lui pour l'aider à passer ce mauvais passage. Enfin, c'est absolument évident enfin, que... Il y avait des relations quasi fraternelles entre eux, n'est-ce pas ? Malgré les mauvaises paroles que parfois Picasso ne se retient pas de lancer. Vous voyez ?
France Culture, vous écoutez le bon plaisir de Francis Ponge.
Francis Ponge décrit La femme qui pleure.
De Picasso.
1937.
Il s'agit évidemment d'un portrait. C'est très lisible, les yeux sont en leur place, la bouche aussi, le chapeau aussi, la chevelure aussi. Enfin, tout cela fait que la chose est parfaitement lisible comme étant un portrait de femme, étant donné, à l'époque dont il s'agit, la longueur des cheveux. L'impression immédiate est une impression que le trait, le dessin, a plus d'importance encore sans doute que la peinture, les couleurs apparaissant comme placé à l'intérieur des traits. Ces couleurs comportent à peu près toute la palette, depuis des tons les plus chauds, comme le rouge du chapeau, par exemple, jusqu'aux tons les plus froids, comme le vert de la partie droite du visage et du col du corsage. Il n'y a pas du tout de séduction dans le passage d'une couleur à l'autre. C'est un tableau qui pourrait, s'il n'avait pas le graphisme qu'il a, être considéré un peu aussi comme un tableau fauve, n'est-ce pas? Le blanc du centre est très frappant, parce qu'alors là, l'expression des formes et de la couleur, qui est simplement une peinture blanche avec des traits noirs et bleus, c'est comme s'il s'agissait d'une photo très réaliste, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de dents, par exemple, les coins de la bouche, sans relever d'une certaine façon, le fait de mordre le mouchoir est exprimé aussi par les plis du mouchoir, et le côté lugubre, enfin, ou funèbre de la chose, est très accentué par le fait du noir et blanc, un peu comme dans le deuil, n'est-ce pas? Le tableau est extrêmement équilibré, il y a le rouge du chapeau, et il y a le rouge du fond derrière les épaules du personnage, qui rend le tableau tout à fait statique. Alors je pense que aussi les horizontales très marquées du fond sur lequel se détache le personnage sont faites pour aussi rendre plus sensible le côté très violemment explosif et contourné du visage douloureux, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit d'une femme qui pleure, c'est clair. Alors je pense que cela est réalisé en grande partie par le contraste entre les verticales et les horizontales et même les obliques très fermes du fond et le côté explosif et contourné du visage et surtout du centre du visage. La matière est aussi très intéressante parce qu'il ne s'agit pas, bien que le dessin ait une grande place et que la couleur soit, pour ainsi dire, superposée ou insérée à l'intérieur du dessin, ce n'est pas la couleur qui fait la forme. Elle est vraiment faite par le dessin lui-même. Alors ce qui me paraît très intéressant, c'est que bien qu'il s'agisse de cela, c'est-à-dire surtout d'une peinture dessinée puis coloriée, on pourrait presque dire que c'est du dessin rehaussé, n'est-ce pas, évidemment fortement rehaussé, il y a tout de même une valeur de la matière, n'est-ce pas, qui en fait évidemment une peinture et non pas un dessin rehaussé. La touche est assez grasse, n'est-ce pas, par endroits. Enfin, il y a des touches horizontales sur le mur du fond, il y a des touches assez épaisses, pas tout à fait haute patte, mais enfin tout de même un peu, sur la partie gauche, c'est-à-dire droite de la figure, en haut du front de la tempe, n'est-ce pas? C'est surtout remarquable là. L'importance de la couleur ne doit pas être sacrifiée, puisque c'est un tableau violemment coloré, n'est-ce pas? Et qu'on ressent immédiatement à la fois comme très dessiné et comme très violemment coloré. Alors, dans certains tableaux de Picasso, il y a des délicatesses de couleur qui n'apparaissent pas ici. Il y a pourtant ici des tons très rares, n'est-ce pas? Comme par exemple le ton du manteau, qui est un brun violacé, n'est-ce pas? Une couleur difficile à obtenir et rare, et qui s'oppose aux couleurs quasi pures du vermillon, du jaune et du bleu de la face. Il faut aussi remarquer, du point de vue de la couleur, le fait qu'il est placé dans le haut du visage de la femme, autour des yeux et entre les yeux, des taches mauves, qui viennent évidemment en complémentaire du vert et du jaune qui s'y oppose le plus brutalement qu'il soit, n'est-ce pas? Cette brutalité, d'ailleurs, ajoute à la force du tableau. Je ne l'emploie pas du tout comme un mot défavorable. Cela ajoute à la puissance de l'expression, n'est-ce pas? Il y a évidemment aussi une partie pour les noirs, tout à fait différent que, par exemple, les noirs chez Manet. Il y a un très beau noir qui encadre la partie droite, donc gauche de la figure, n'est-ce pas? Un très très beau noir. Voilà à peu près ce que je peux dire. Évidemment, tout cela est lisible à la longue. Je pense aussi que ce tableau doit être regardé assez longuement et qui sera lisible pendant très longtemps, enfin, et qu'on pourrait le décrire encore beaucoup plus précisément. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de mon impression.
Il était dur à l'égard des peintres et assez compréhensif à l'égard des écrivains.
Qui donc ?
Picasso.
Oui, mais vous savez, enfin, pas tellement. Je l'ai connu aussi, attentif à certains peintres. Par exemple, et je me souviens, j'avais un ami qui est mort très jeune de Parkinson, qui s'appelait... Ah, les noms propres. Enfin, je l'ai bien connu. Et il m'a acheté beaucoup de manuscrits. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui avait... Ah, comment s'appelle-t-il ? Enfin, peu importe. Eh bien, Picasso a envoyé sa Barthès, vous savez que c'était son
homme de confiance.
Oui, un homme de confiance. Il l'a envoyé pour voir ce peintre et pour savoir ce qu'il valait, n'est-ce pas ? Et sa Barthès est revenu en disant oui, c'est bien. Et il est devenu alors l'ami de notre ami. De mon ami à moi, à un tas de gens, à Ionesco, à un tas d'autres. Et il passait son temps en Floride à peindre les Indiens. Comment on a vu ça tout récemment dans un film hier ou avant-hier, les Séminoles, les Indiens de Floride. Et j'ai beaucoup de peintures de lui. Ici, je ne crois pas, mais je n'ai non pas ici, pas dans la pièce ici. Ici, il y a Braque ici, n'est-ce pas ? Ça, c'est une chose qui m'a été donnée plus tôt. C'est une litho de Braque. J'ai écrit, vous savez, pour la Fondation Mag, à plusieurs reprises. Ils m'ont demandé des textes pour telle ou telle nuit de la Fondation, telle ou telle fête. Et alors, me demandant, comment voulez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous payer ? Alors j'ai dit, ben, beaucoup d'argent, ou une chose de Braque. Alors bon, alors ils m'ont donné ça. Ça, c'est encore Braque, là.
Pourquoi vous riez quand vous dites beaucoup d'argent ? Vous avez un curieux rapport à l'argent, que j'aime assez d'ailleurs.
Mon rapport, c'est le rapport de Malherbe, dont Malherbe disait, je ne sais pas trop ce que valent mes pièces, je la prends d'après l'argent qu'elle me valent quand la reine, Marie de Médicis, ou Richelieu, ou Henri IV, me mettent un peu plus d'argent sur la liste des pensions, et bien, c'est donc que mon texte était bon. J'en juge d'après ce qu'il me rapporte.
Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais j'ai l'impression que les écrivains en France ont un peu peur de ce rapport-là.
Oui, bon, oui, en général.
Il y a une idéologie qui dit que, bon, on travaille gratuitement.
Qui dit ça ?
En général.
Oui, oui, c'est absurde. Vous savez, il y a quelques années, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais encore ici, c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui m'a dit, écoutez, monsieur, voilà, je vous ne me connaissez pas, moi je vous connais, et le ministre, c'était M. Jacques Lang, a décidé de créer un prix national de la poésie, en plus de le prix national de littérature, de ceci, de cela, mais spécialement de la poésie. Nous sommes un certain nombre à penser que c'est vous qui devez être le premier à recevoir ce prix. Si on vous le donne, est-ce que vous l'accepterez ? J'ai dit, écoutez, moi, je ne fais rien pour mériter les prix. Je ne suis jamais candidat à un prix. Mais si on me l'offre, ben, bien sûr, je l'accepte. Est-ce qu'il y aura un peu d'argent ? J'ai dit, et l'argent ? Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais... J'ai dit, ça sera sans impôt. Il me dit, oui, sans impôt. Bon, alors, j'ai dit, vous savez, je trouve beaucoup plus prétentieux et désireux de publicité de refuser un prix. J'ai beaucoup d'amis qui ont refusé des prix, notamment Gracq, notamment Michel Léris, notamment bien d'autres. Enfin, Char, Dieu sait combien, ont refusé des prix parce qu'ils espéraient en avoir de plus importants, sans doute, plutôt. Le Nobel ou autre chose. Mais, bon, enfin, tu vois-tu que...
C'est un candidat au Nobel ?
Je n'ai jamais été candidat à quoi que ce soit. J'ai été sur les listes. À un moment donné, je l'ai appris par des Allemands. À un moment donné, j'étais en seconde position pour le Nobel. Mais enfin, peu m'importe. Enfin, c'est-à-dire, peu m'importe, je serais assez content. Bien sûr, à cause de... Oui, mais le fait est... Enfin, oui.
L'argent.
Oui, ben, bien sûr. Mais enfin, le fait est que enfin, je n'ai pas besoin de ça et que je ne veux pas faire de platitudes pour ça. Et puis je suis...
Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent-là ? Qu'est-ce que vous achetez ? Des toiles ? Des peintures ?
Mais non, je vis. Vous savez, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Non, on a besoin de beaucoup d'argent pour simplement pour maquer, pour manger, pour c'est vrai. Puis maintenant, je n'ai plus le droit de faire de voiture. Alors je suis obligé de prendre des taxis ou de... Je n'ai plus le droit, ma femme ne conduit pas et moi-même... à cause de mes histoires d'yeux, je ne peux plus conduire. Mes chirurgiens m'interdisent la conduite. Alors, voilà, ça me coûte cher, quoi. Et puis la propriété ici me coûte cher aussi, parce qu'elle est vaste. Et puis pour faire faucher, hein, ben, y en a pour chaque année beaucoup d'argent, ça coûte cher. Mais c'est très bien d'avoir une maison, mais enfin, il y a toujours des réparations, tas d'histoires.
Vous passez toute l'année ici ? Ou bien vous montez, vous venez à Paris ?
Non, nous venons à Paris. En général, nous passons, ce qui est un peu paradoxal, nous arrivons à Paris généralement un petit peu avant les fêtes de fin d'année, pour les passer avec ma fille et mes petits-fils qui vivent à Paris, et, enfin en famille. Et puis nous y restons un peu plus longtemps, quoi. Et certaines années plus longtemps.
Comment passez-vous vos journées ici ?
Mes journées ? Maintenant, vous savez, cette année, c'est un peu difficile parce que j'ai ces ennuis respiratoires. J'ai aussi, comment dirais-je, des nuits qui sont plus ou moins fatigantes parce que j'ai besoin de... Enfin, il ne faut pas que je sois trop couvert, il ne faut pas que je ne sois pas assez, c'est assez difficile. Surtout, en ce moment-ci, c'est difficile. À cause du fait qu'on ne sait jamais s'il va faire froid, chaud, etc. Enfin, les saisons, certaines saisons sont vraiment difficiles. Alors, je passe des nuits souvent pas très, très... Enfin, que je trouve interminablement longues. Enfin, ça dure terriblement longtemps. On se couche tard, pourtant, en général. En général, on se couche tard. Et...
Alors, qu'est-ce que vous faites la nuit ? Vous pensez
ben
ou
non,
vous lisez ?
Non, je pense, non, je lis. Je lis un peu, parfois, mais pas tellement. Mais je... Grand-mère, oui, je pense. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Un peu trop, enfin, oui, oui. Et puis, j'ai des livres de chevet, bien sûr.
Lesquels ?
Beaucoup La Fontaine, beaucoup des livres sur les Étrusques, parce que j'adore... cette civilisation, et notamment un livre de Jacques Ergon, la vie quotidienne chez les Étrusques. Un très très bon livre. Oui, j'aime beaucoup cette civilisation. Je crois que, enfin, il y a chez moi aussi un peu d'origine étrusque, enfin, je veux dire, autant que romaine. Je me suis trouvé à Rome pour des années saintes, par exemple, où il vient des Calabrais, des Siciliens, des gens. Du midi, comme ils disent, qui m'arrête dans la rue pour me demander comment aller à Sainte-Marie-Majeure ou à Saint-Pierre-du-Vatican, parce qu'ils me prennent pour un Romain. Mais il y a eu à un moment donné une grande exposition étrusque à Paris, et vraiment, il y avait un bronze étrusque d'un jeune étrusque, c'était moi, enfin, ça, il n'y a pas de doute, enfin, je veux dire, c'était mes défauts, si vous voulez, physiques. C'est-à-dire un peu court sur pattes, et le buste un peu trop long par rapport aux jambes. La forme des mollets, enfin, c'était certainement beaucoup plus près de ça que des...
C'est vrai que vous avez un masque assez étrusque, hein, un front étrusque.
Je ne sais pas trop, mais le fait est que je n'ai pas le gabarit des légionnaires romains. Hein,